Bonjour chers auditeurs, j'avais reçu mon invitée il y a presque 4 ans pour parler du délicieux livre qu'elle avait offert à ses lecteurs, « Donner une âme à sa maison », publié aux éditions MAM. Aujourd'hui, elle revient avec un nouvel ouvrage autour de femmes. Femmes inspirées, femmes inspirantes, nous allons en parler. Bonjour Olivia de Fournasse.
Bonjour Bertie.
Vous êtes journaliste à Famille Chrétienne, votre spécialité ce sont les portraits. Alors aujourd'hui, vous revenez avec les 16 portraits de femmes, femmes inspirées, femmes d'aujourd'hui portées par l'esprit. Votre spécialité sont les portraits. Qu'est-ce qui vous passionne dans l'exercice de l'entretien ?
Alors j'ai toujours aimé, je pense que c'est la curiosité, mais vous devez partager cette qualité ou ce défaut avec moi, chère Sophie, parce que vous êtes journaliste. Mais depuis ma tendre enfance, je suis nourrie par tout ce que me disent les gens autour de moi, les adultes, les enfants, mes professeurs. J'ai toujours aimé écouter déjà. J'ai voulu d'abord en faire mon métier, puisque j'ai suivi des études de conseillère conjugale, où on vous apprend vraiment à écouter, avec les attitudes de porteur, les différentes manières d'écouter. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous apprenez, vous avez une manière particulière d'écouter. Si quelquefois, c'est du jugement, de l'empathie, du support. Évidemment, quand on est journaliste, c'est l'enquête. Donc, moi, j'ai tendance à poser des questions. Et donc, c'est un défaut pour être conseillère conjugale, mais c'est une qualité pour être journaliste. C'est peut-être pour ça que j'ai fini par être journaliste, parce que ça m'intéresse beaucoup d'écouter, mais ça m'intéresse aussi de restituer. Voilà. Et d'essayer de trouver un fil rouge dans ce que me dit la personne pour trouver son histoire intérieure, sa substantifique moelle, ce qui la porte, et pouvoir l'offrir au monde. Voilà.
De l'écoute, c'est magnifique. Et d'ailleurs, on se retrouve dans ce livre. On sent votre besoin d'écouter et la facilité finalement qu'ont peut-être les femmes à se livrer, ou en tout cas, elles finissent par se livrer. Dans ce livre inspiré qui est publié par Arthège, vous avez choisi 16 femmes, des femmes d'aujourd'hui, bien de leur temps, bien dans leur vie, avec des profils on ne peut plus divers. Pourquoi n'avoir choisi que des femmes ? Pourtant, il y a des hommes inspirés. Est-ce que vous pensez qu'ils sont suffisamment mis en valeur ? Ou que certaines femmes avaient besoin d'être mises en valeur ? Ou c'est au hasard des rencontres ?
Bah écoutez, peut-être qu'il y aura un tome 2 avec les hommes inspirés, je ne sais pas. Mais en fait, ce qui a porté le projet, c'est que j'ai écouté ce podcast que vous devez connaître de Léa Salamé qui s'appelle « Femmes puissantes ». Et où elle met en valeur des invitées très puissantes, connues sur la place publique. C'est passionnant, elle interviewe très bien d'ailleurs. Mais j'ai trouvé que la diversité des profils n'était pas respectée, puisque évidemment son angle, c'est la puissance. Et j'ai eu envie, moi, de me dire, ce qui m'intéresse, c'est aussi les femmes inspirées. C'est pas seulement les femmes qui veulent être numéro 1 sur les podiums, briser le plafond de verre.
Celles que l'on voit partout. Celles que l'on voit partout, finalement.
Même si, évidemment, il y a des femmes inspirées et puissantes, et des femmes puissantes et inspirées. Mais voilà, je trouvais que l'angle de prendre par quoi sont inspirer ces femmes était peut-être original et peut-être plus intérieur et peut-être offrir des modèles à nos jeunes filles et à nous, les femmes, auxquelles on n'était pas habitués. On est habitués à avoir des livres sur des femmes qui sont mortes plus tôt. Donc, moi, je suis très inspirée par Jeanne d'Arc et Thérèse d'Avila. Mais j'avais envie de faire parler des femmes d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font des choses dans leur coin, qu'on ne voit pas forcément. Et je suis très heureuse de leur offrir cette tribune pour s'exprimer, les faire connaître et nous encourager toutes à y aller.
Ah, c'est vrai que c'est bien les femmes vivantes. Hein. elles sont très vivantes d'ailleurs. Alors vous les dites inspirées, mais par quoi sont-elles inspirées ?
Alors l'inspiration originelle... pour moi, parce que le sous-titre du livre, c'est « Des femmes portées par l'esprit ». Alors l'esprit, c'est assez large, c'est l'éditeur qui a voulu ce mot. Quand on est chrétien, c'est l'Esprit Saint, mais quand on ne l'est pas, ça peut être aussi tout le principe spirituel, toute l'étincelle du divin, toute la source de vie que peut abriter un homme ou une femme. Et donc c'est cette source, c'est à partir de cette source que découlent toutes les vertus dont sont parés mes 16 témoins. Donc, évidemment, Aucune ne les a toutes, hein, nous sommes toutes différentes et pécheresses, mais j'ai voulu pour chacune choisir quelque chose. Par exemple, pour Ayam Suro, qui a monté une école Pierre Claver, c'est l'hospitalité. Donc j'ai tiré le fil rouge de l'hospitalité de haut en bas de son interview. J'ai pas voulu faire une fiche Wikipédia sur chaque femme, j'ai voulu prendre, donc pour Ayam Suro, c'est l'hospitalité, mais pour Ilana d'Orléans, qui est peintre, ça va être les anges, parce qu'elle est très marquée par les anges. Pour Hélène Pontier, qui est ingénieure agronome, qui travaille dans une colocation solidaire, hein, ça va être l'écologie altruiste. Pour Marie-Laure Buisson, qui est colonel de réserve, l'esprit de service. Vous voyez, j'ai essayé de, pour chaque femme, de tirer un fil différent pour que ça soit un peu varié.
Mais d'ailleurs, elles sont extrêmement variées, ces femmes. Elles ont un point commun, c'est certainement l'inspiration, et on y reviendra. Mais leurs origines, leur parcours, leur caractère couvrent un spectre extrêmement large. Même leur choix de vie, célibataire, marié, divorcé avec ou sans enfant. Elles peuvent être catéchistes, chefs d'entreprise, artistes, créatrices, engagées dans une association. Mais en fait, outre l'inspiration, ce côté très particulier, parce que quand on lit le livre, on se dit « mais ces femmes sont incroyables ». Mais en fait, vous parliez de suivre un fil, et je crois que chacune suit le fil de sa vie. Alors souvent, il y a des réorientations. Vous-même, vous parlez de votre propre réorientation, où vous êtes parti d'une profession et vous êtes allé ailleurs, toujours vers les autres, mais de manière différente. En fait, ces femmes, l'impression que l'on a, c'est qu'elles arrivent à trouver leur voie, ce vers quoi elles sont appelées. C'est peut-être ça leur inspiration.
Exactement. Elles répondent à un appel intérieur. Donc, il y a cette source à l'intérieur d'elles. Et une rencontre, un événement, un accident, une rupture, quelque chose, un son pour certaines d'entre elles, font qu'elles se révèlent et qu'elles vont aller dans une direction et faire monter une association, créer un film, peindre. Alors évidemment, le terreau de l'enfance les y a préparés, aussi le terreau de leur propre caractère, le terreau de leur histoire, mais il y a souvent comme ça un déclic à partir duquel elles se disent « bon ben voilà, là j'y vais ».
Et ce déclic, moi je trouve qu'il n'est pas si évident que ça. J'ai l'impression que pour un certain nombre d'entre elles, c'est la suite logique de leur vie. Il ne se passe pas forcément d'événements très, très, très particuliers, mais elles avancent dans leur vie en fait, et elles s'engagent. Et en fait, je crois que c'est ça peut-être leur caractéristique, c'est l'engagement. C'est le choix de faire quelque chose. Parce qu'on l'a décidé. Alors, par votre profession, vous travaillez beaucoup auprès de personnes engagées, pour une cause ou pour une autre, mais qu'est-ce que ça veut dire être engagé pour vous?
Alors effectivement, elle s'engage parce que, bon, à l'origine de l'engagement, il y a cet appel pour moi, il y a cet appel qui correspond. Alors, effectivement, ce n'est pas toujours un déclic flagrant, ça peut être aussi dans l'enfance. Je pense à Caroline de Fontenay qui a vu ses deux parents qui étaient colonels et quand elle avait 13 ans. Et on demande à sa mère de quitter l'armée si son père peut être générale. Et elle, ça l'a énormément marquée. Bon, c'est pas forcément un déclic, mais c'est une petite graine sur son chemin qui a fait qu'après, elle a orienté sa vie au service des femmes. Mais pour répondre à votre question, elles sont engagées parce qu'à partir du moment où vous trouvez votre voie, où vous êtes complètement en congruence avec ce que vous êtes et ce que vous avez envie d'offrir au monde, eh bien c'est facile, quoi. C'est facile. C'est jamais facile, comme Anne Huck, de créer une maison pour les femmes seules, les maisons providentielles. Vous imaginez tout ce qu'il faut bouger, que de réseaux, de sous, de déceptions, de temps, d'administration. Mais elle a trouvé ça, elle, parce qu'en fait, elle s'est retrouvée jeune mariée. Elle a toujours été nantaise, elle est archi connectée à Nantes. Elle s'est retrouvée pas très loin de chez elle, d'ailleurs, à 90 km de chez elle, à Angers, mais toute seule avec son nourrisson. Et elle s'est sentie extrêmement seule. Et ça a été le déclic qui fait qu'elle s'est dit « mais je vais monter une maison pour les femmes seules », parce que ça n'a rien à voir avec le milieu social. On se sent seul à un moment de sa vie. On n'a personne avec qui partager son bilan sanguin ou ses histoires ou des problèmes d'éducation. Et elle a monté ça. Et elle est en train, voilà, ça essaime un petit peu partout maintenant. Mais effectivement, je dirais que c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Je ne sais plus qui disait ça.
Beaucoup de travail, en tout cas, chacune.
Voilà, beaucoup de travail pour chacune, mais c'est plus assez facile parce que c'est pas, elles vont pas à la mine le matin. Elles vont au service des autres. Chacune, elles se sentent responsables des personnes pour qui elles sont impliquées, parce que personne n'œuvre dans son coin. J'ai choisi des femmes qui voulaient vraiment, qui étaient altruistes et qui voulaient servir le monde et les autres.
Mais c'est beaucoup de travail, en fait. Beaucoup de détermination. Je dirais que, outre l'engagement sans faille, leur caractéristique commune, c'est la détermination, c'est-à-dire qu'en fait, l'orientation de leur vie, elles l'ont trouvée. Et vous parliez de ces maisons providentielles. Je n'ose pas imaginer ce qu'il y a dû avoir comme obstacle pour arriver au bout et pour, même si on n'arrive jamais au bout d'un chemin, mais en tout cas, pour voir l'ouverture de cette maison, il y a un travail énorme où ces femmes qui créent une école, on n'a jamais fini de créer une école parce qu'on doit se renouveler en permanence, le faire vivre, etc. Aucune ne se dit « j'ai réussi à faire ce que je voulais, j'arrête ». J'arrête, je me repose, je suis les doigts de pied en l'éventail. Il y a cette détermination qui les amène toujours, toujours plus loin, sans que ce soit excessif, hein, mais c'est du travail de long terme, de cette détermination sans faille, elle caractérise toutes ces femmes.
Oui, mais elles sont portées à l'origine, c'est pas que de la détermination appuyée sur leur volonté, à l'origine, elles sont portées quand même par ce souffle qu'elles sentent quand Hélène Pontier, voilà, va faire du maraîchage dans un chantier d'insertion avec des personnes vulnérables, des personnes de la rue, des personnes qui sont en addiction, loin avec ses deux petites filles et son mari à l'autre bout de la France, au village François. Elle est portée par, elle se dit qu'elle œuvre pour le bien du monde et je pense que c'est plutôt ça qui l'apporte. Après, il y a le travail. Mais quand même, sans cette inspiration, je suis pas sûre qu'elle aurait pu vendre des dentifrices chez L'Oréal avec la même volonté, la même détermination et le même engagement.
Alors, certainement qu'elle aurait pu le faire, mais peut-être pas avec le même enthousiasme, effectivement.
Voilà.
parmi les 16 femmes que vous avez choisies, certaines sont peu connues, sont un peu connues, mais pas tellement du grand public. D'autres ne sont pas du tout connues. Comment les avez-vous choisies?
Ah, écoutez, justement, au départ, j'ai proposé à Loïc Marian, qui est le directeur d'Artege, ma maison d'édition, de faire un livre de femmes connues. Et plusieurs m'avaient d'ailleurs répondu oui. Mais après, en réfléchissant, je me suis dit que d'abord, ces femmes connues, elles s'étaient déjà exprimées ailleurs, et elles avaient un discours, elles avaient quand même une image à montrer, elles avaient elles avaient un discours qui n'était pas forcément libre, et puis des métiers quand même déjà balisés puisqu'elles sont connues.
Oui, donc en fait, le risque, un risque d'un discours extrêmement construit, structuré, voilà. et un peu
politique,
attendu.
Voilà, exactement. Vous avez bien résumé le problème. Et donc, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis dit, avec mon métier, ça fait 12 ans que je travaille à Famille Chrétienne, que je croise des femmes extraordinaires à Paris, en région, partout, et qui ont des initiatives incroyables et qui ne se font pas spécialement connaître, et ben voilà, ça va être l'occasion. Et donc, je vous avoue que c'était la plus grosse partie de ce travail, c'était d'arriver à sélectionner ces 16 femmes pour qu'elles aient des âges différents, des conditions différentes, même des sensibilités religieuses différentes, qu'elles soient partout sur tout le territoire, et qu'on les ait pas trop vues, mais quand même qu'elles aient fait des choses assez impressionnantes. D'ailleurs, il y en a la plupart, je me demande, moi, pourquoi elles sont pas plus connues que ça.
Parce qu'en fait, elles œuvrent dans la discrétion. Enfin, moi, je trouve généralement leur discours assez direct. Et c'est peut-être ça qui les rend inspirantes, finalement. Est-ce que vous les avez choisies? Elles sont inspirées, mais est-ce qu'elles sont aussi inspirantes, ces femmes?
Justement, quand on est inspiré et qu'on est porté par quelque chose qui est plus grand que soi-même, je pense qu'on est forcément inspirant pour les autres. Ça se voit sur dans la manière de parler, dans la manière d'interagir, Voilà, je pense que Nadia Picaretta, qui est une musulmane qui est convertie et qui est même devenue catéchiste alors qu'elle n'y connaissait rien, vraiment, elle est vraiment inspirée. Elle est déterminée et elle a fait de sa différence. Elle a, voilà, une force, hein, et elle est à fond, elle est beaucoup plus à fond que la plupart des catholiques de souche.
Oui, parce qu'en fait, elle a l'énergie qu'ont peut-être perdu un certain nombre de catholiques de souche. Enfin, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais
Ouais, je sais pas
catholiques.
non plus. Oui,
Enfin, mais
non.
bon, on n'est pas là
Sécularisé,
pour
catholique.
juger,
Oui.
mais
Non.
il y a une énergie et un souffle que voilà que qu'on retrouve très bien dans les pages que vous lui consacrez. Vous n'avez pas eu de difficulté à les trouver, ces femmes, parce que, enfin, c'est un peu difficile pour une femme d'être considérée comme inspirée. Allô, vous avez l'air inspirée, est-ce que je peux parler de vous dans mon livre? Ça me semble effectivement difficile d'accepter. Il faut finalement beaucoup d'humilité pour accepter de paraître dans un tel livre.
Exactement. Eh bien, vous ne me croyez pas si bien dire, parce que j'ai eu beaucoup de femmes qui ont vraiment freiné des faire. Et si j'avais écrit justement Hommes inspirés, je pense que j'aurais eu beaucoup moins de mal, parce qu'il y a ce syndrome de l'imposteur qui fait que non, pourquoi moi? Non, je ne peux pas dire que je suis inspirée. Et donc, j'ai dû essuyer beaucoup de refus. Et celles qui ont accepté humblement de témoigner, c'est justement. Quand je leur disais que ça permettait de donner des modèles aux jeunes filles, hein, qu'elles ne s'embarquent pas toutes à faire du conseil et de la finance, qu'il y a aussi d'autres voies. Et je trouve que ce sont des témoignages lumineux et dont on a besoin aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas plombant. On se dit, on peut être herboriste aujourd'hui, on peut être peintre, on peut monter l'histoire incroyable de Florence-Anne Ambroselli aussi, qui a monté un atelier pour faire des cartes spirituelles. Voilà, il y a 1000 chemins et il faut juste croire à son étoile et suivre ce souffle. Et puis, en fait, la vie se charge de vous faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment et a beaucoup d'humour aussi. Je trouve que ces femmes, elles ont beaucoup d'humour, ça va peut-être avec l'humilité, mais elles ont un regard sur elles-mêmes et sur ce qu'elles font, finalement, qui n'est pas du tout arrogant. Et je pense qu'elles doivent embarquer avec elles dans l'aventure, surtout celles qui ont besoin de fond. Des gens qui justement sont comme des hamsters dans leur roue et qui admirent ce côté désintéressé de ces femmes qui vont monter. Je pense à Marie-Liesse Gout qui est au service de la fertilité au naturel. C'est tout petit, tout est nu, mais bon, elle a quand même 100 000 abonnés sur Instagram qui la suivent et elle est prise pour 6 mois pour ses entretiens où elle essaye de restaurer le cycle des femmes. Et elle a été inspirée au départ par ses parents qui, quand elle avait 15 ans, lui ont donné une médaille avec écrit Sentinelle de l'invisible. Vous voyez, elle s'est pas dit à 15 ans, génial, je vais être infirmière au service de la fertilité, mais c'est des petits cailloux qui ont fait que petit à petit, tout s'est mis en place. Et j'aime pas cette expression, les planètes se sont alignées, mais c'est un petit peu ça.
Bon,
Les
finalement,
planètes.
pourquoi pas, hein, c'est un peu facile, mais
Oui,
bon,
voilà. Je préfère la Providence qui a bien fait les choses, voilà, peut-être.
exactement. Olivia, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour parler de toutes ces femmes inspirées.
Thank you.
Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans l'émission Culture et Éducation avec Sophie Rouberti. Nous sommes en compagnie d'Olivia de Fournas à propos de son livre Inspiré, 16 portraits de femmes d'aujourd'hui portés par l'esprit, publié aux éditions Artege. Alors nous parlons de ces femmes qui ont accepté de témoigner de leur parcours original. Alors je vous imagine, allô, bonjour madame, auriez-vous, vous êtes un peu originale, un peu particulière, accepteriez-vous de parler de votre parcours? Je pense que ça a été plus complexe que ça. Comment se sont déroulés les contacts pour la conception de ce livre? Avant qu'on vous dise oui.
Oui, c'est effectivement. Alors, souvent, je suis partie d'un coup de cœur. Je trouve que ces femmes sont exceptionnelles. Et donc, soit je les ai déjà interviewées pour Famille Chrétienne ou pour autre chose, soit je les ai déjà croisées dans mon réseau, soit par exemple, chez Yann Carmon, j'avais déjà vu ses films. Ayam Sureau, j'avais entendu parler de son école Pierre Claver. Julie Drodviac, je la suivais sur Le Jardin des Ouvriers. Sur Instagram. Donc, j'avais quand même quelques pistes de femmes. Et donc, après, bon, il a fallu trouver leur numéro. Donc, ça, c'est facile pour un journaliste. Et après, voilà, je leur ai présenté tout simplement le projet en disant je voudrais réunir 16 femmes qui puissent me parler au plus près de ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'en fait, le terme portrait qui est choisi sur la couverture, en fait, n'est pas totalement ajusté parce que ce sont des portraits parce qu'on décrit la femme, mais au fond, ce sont des entretiens. C'est des questions-réponses. Et j'ai voulu justement ces questions-réponses pour être au plus près de leurs paroles. Donc ça, je pense que ça a aussi dû jouer, c'est pas un portrait comme ça subjectif, ce sont vraiment des questions et des réponses qu'on a creusées, et je pense aussi qu'elles ont apprécié que j'ai identifié chez elles le mot qui régit leur vie, donc l'écologie, le service, les talents, les liens, la parole, la vérité, la liberté, et qu'on tisse ce lien. Je ne vais pas raconter toute la vie de Anne Coffigné ou d'Hélène Pontier. Je vais raconter leur vie à travers ce prisme que moi j'ai senti, et elles ont estimé que c'était juste. Et je vous dis, à mon avis, si elles ont accepté, c'est qu'elles ont voulu aussi. Elles ont constaté comme moi que les jeunes filles avaient besoin de portraits de femmes contemporaines. Et voilà, et c'était un peu l'occasion.
Chaque portrait est construit de la même manière. Enfin, chacun est original, mais vous avez une introduction que vous avez rédigée, vous, qui est votre manière de percevoir la personne que vous avez en face de vous. Et après un entretien où chacune se raconte l'environnement, l'ambiance familiale dans laquelle on l'a grandi, les événements que vous évoquiez, les événements marquants qui ont permis d'orienter une vie, et puis je dirais l'éclosion du talent, l'éclosion de cette originalité. Chacune a une profonde originalité. Je dirais que chacune de ces femmes présente un parcours original. J'aurais envie de dire qu'elles ne suivent pas un modèle, et c'est ce qui fait leur profonde originalité et leur bonheur de se lever chaque matin pour l'œuvre qu'elles accomplissent.
Oui, exactement. C'est exactement ça. J'ai voulu commencer l'entretien toujours par le terreau familial, parce que moi je pense qu'on est le maillon d'une grande chaîne, et que quand on fait des choses extraordinaires comme elles font, ça vient pas de nulle part. C'est souvent enraciné dans une éducation, un terreau familial qui est propice. Ou pas d'ailleurs, mais je trouvais toujours intéressant, c'est toujours ma première question que je leur pose. Alors quelquefois je ne mets pas la réponse quand la réponse n'appelle rien, mais souvent... je vous parlais de Caroline de Fontenay avec ses parents tout à l'heure, mais par exemple, ce qui m'a marqué, c'est Cheyenne Caron, qui, elle, a été adoptée à 3 mois. Donc, ses parents biologiques, elle n'aime même pas qu'on dise ça, parce que le mot de parent la dérange. Parce que ses géniteurs, géniteurs l'ont laissée à la DAS, qui est l'ASE aujourd'hui, mais l'ancienne DAS. Et elle a été adoptée par une famille extraordinaire qui est devenue vraiment sa mère. Elle aime énormément sa mère, mais sa mère, elle n'avait pas. Les parents ont refusé de signer tous les papiers, et donc elle n'avait pas le droit d'appeler sa mère par son. Elle n'a pas le droit d'appeler sa mère maman. Elle devait l'appeler Chantal. Et pareil, elle avait envie d'être baptisée, de faire sa première communion, mais elle n'avait pas le droit parce que ses géniteurs s'y opposaient. Et donc elle a nourri un sentiment de par rapport à la vérité. Vous voyez, qui était très curieux parce que les choses qu'elle ressentait dans son cœur, donc c'est-à-dire que sa maman était vraiment sa maman et qu'elle avait envie d'être croyante, eh ben, elle ne pouvait pas y accéder. Et donc, je pense que c'est dans ce terreau-là que s'enracine son désir de faire des films où elle restitue la vérité, mais avec un point, un angle toujours très original. Par exemple, son prochain film, hein, qui va être sur Arnaud Beltrame, donc ce héros qui a donné sa vie pour une otage. Donc évidemment, elle magnifie cet acte héroïque, mais elle voit aussi à côté ces deux femmes, donc la femme d'Arnaud Beltrame, parce qu'il venait de se marier, et sa mère, eh ben, qui ont été amputées de leur fils, qui s'est tué pour une inconnue. Vous voyez, elle décale, et elle prend des sujets assez amusants, la monarchie, la Légion étrangère,
La vie dans les banlieues.
l'assassinat du père Hamel, voilà, elle a toujours un pas de côté, et ça, je pense que c'est enraciné dans son enfance. Aussi, elle a un film sur un prêtre qu'on accuse de harcèlement sexuel, et en fait, c'est pas vrai. Donc, c'est toujours un petit peu dérangeant, mais elle dit que si on veut vraiment restituer la vérité, il faut aussi montrer tout. Il faut la montrer à 360. Il ne faut pas montrer une partie, même si c'est 90%, il ne faut pas montrer une seule partie de la vérité. Voilà, donc son parcours est très cohérent.
Et ce qui lui vaut, elle est très cohérente, mais ce qui lui vaut
Très
quelques
cohérente.
difficultés et en tout cas le refus d'un financement public pour chacun de ses films depuis
Eh
l'origine.
bien, voilà,
Voilà, c'est
exactement. Ça, c'est vrai que c'est la contrepartie. C'est la même chose pour Radio Courtoisie. Quand la liberté a un prix, et voilà, et chez Yann Caron, ces films ne sont pas acceptés par le CNC, en tout cas pas pour les financements. Et bon, et vous voyez, elle a quand même réussi, c'est que c'est quand même un gros budget de sortir un film, et elle réussit à les sortir. Alors c'est vrai qu'à quel prix? Parce que donc elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais eu d'enfant,
C'est
elle
un
vit
choix
très
d'ailleurs. Elle
simplement.
le
Oui,
dit,
oui.
elle explique que c'est un vrai choix, qu'elle ne se sent pas capable de gérer à la fois sa carrière d'artiste et une famille.
Oui, mais ça a quand même été une question. Et voilà, et j'imagine que son enfance n'est pas pour rien dans cette décision. Et puis voilà, elle habite en Ardèche, dans une maison
Un peu isolée, visiblement.
isolée, pas très loin de sa mère d'ailleurs. Et je posais aussi comme question à toutes ces femmes, donc je suis partie de leur enfance, de leurs parents, de leur famille, du genre de leur famille. Et aussi, je termine, j'aime bien aussi terminer en leur disant comment vous voyez la mort. Voilà, comme votre fin de vie, la mort, je trouvais ça toujours aussi intéressant de voir comment elles sont. Parce que surtout, on n'a pas dit que c'était des femmes croyantes. Elles sont toutes croyantes. J'aurais pas demandé si elles allaient à la messe tous les dimanches, mais elles sont toutes cette dimension, cette 3D en elles. Donc,
C'est pour ça que je vous parlais de l'esprit. C'est quoi cette inspiration, cet esprit? C'est quand même, elles sont portées par une foi profonde.
oui. Elles sont parties par une foi profonde, mais qui est très différente pour toutes. Par exemple, Julie Drodiac, elle est pour le mariage des. Elle est pour les femmes prêtres, par exemple. Donc, c'est pas tout le monde n'est pas dans la ligne du parti. C'est non, non, mais c'est amusant. Il y en a qui sont beaucoup plus sur la charité, d'autres sur l'espérance, d'autres sur la foi. Nadia Picaretta, elle est à fond dans le catéchisme. C'est dans l'évangélisation directe aussi, quand elle se promène dans son supermarché et qu'elle voit une vendeuse avec un pendentif avec une tête de mort, elle lui donne une médaille miraculeuse parce qu'elle en a toujours plein les poches, en lui disant bah, t'es quand même plus jolie.
Ouais, il y a une forme de courage dans la relation. Vous parliez de vérité. Ces femmes se racontent, vous les incitez à se raconter. Je pense que vous avez un talent tout à fait particulier pour cela. Est-ce que vous vous êtes demandé si elles étaient toujours sincères ou est-ce que vous avez pris leur témoignage comme elles vous le livraient? Est-ce que vous avez été enquêtrice ou est-ce que vous avez été narratrice?
Non, j'ai plutôt été ni l'un ni l'autre parce que c'était pas une enquête, quoique ça pourrait être une enquête, mais en fait je leur ai donné le mot qui m'inspirait pour elles, donc qu'elles valident ou pas. Par exemple, pour Florence Anne Ambroselli, qui dessine des cartes spirituelles, c'était la compagnie des saints. Elle est très proche des saints parce qu'elle dessine des saints pour les premières communions, tous les sacrements. Et dès qu'elle a un problème, elle connaît tout, pour l'éducation, c'est Saint Jean Bosco, pour les grossesses, c'est Sainte Mathilde, quoi. Elle connaît tous les saints et leurs attributs. Et à partir de ça, bah, je ne vois pas très bien comment elles peuvent mentir, quoi. D'abord, d'accepter d'être dans ce livre, et puis après, mentir, à quoi ça servirait sur cet angle-là.
Alors, ce n'est pas
J'avoue que je me
forcément une
suis.
question de mentir, mais c'est une question de manière de dire les choses. En fait, vous avez pris leur témoignage tel qu'elle vous le livrait.
Oui, parce que c'est une interview. Justement, ce n'est pas un portrait. Moi, j'ai fait le petit portrait du départ. Et après, comme je les interviewe, c'est elles, c'est leur question-réponse. Oui, c'est ça. Je
Donc,
suis
en
au plus
fait.
proche de ce qu'elles pensent. Mais alors, bah oui.
Alors, toutes
Oui.
ces femmes sont extraordinaires. Alors, je vous en avais déjà évoqué quelques-unes. Je pense, voilà, vous avez parlé de Nadia Picaretta. La phrase qu'il a, enfin, la formule qu'il a caractérisée, c'est enseigner l'Évangile. Et vous avez déjà évoqué la force avec laquelle elle le faisait. Caroline de Fontenay, valoriser les talents. On peut en parler peut-être de cette femme, au talent tout à fait particulier.
Oui, Caroline de Fontaine, elle est très amusante. Alors, pour la petite histoire, en fait, au début, j'avais remis mon manuscrit sans Caroline de Fontenay. Et mon éditeur m'a dit, bah, il manque une femme d'affaires.
Ah oui, parce que vous voulez pas, vous,
Et.
vous parliez tout à l'heure, vous disiez que ce serait dommage que toutes nos filles fassent du conseil ou de la finance, mais il y a quand même, la vie de l'entreprise et la vie économique, ça compte tout de même.
Exactement. Et donc, je me suis dit, mais vous avez tout à fait raison. Et donc, j'ai cherché une femme d'affaires, voilà, qui était inspirante. Donc, c'est pas évident. Et Caroline, j'ai eu une chance incroyable parce que c'est une femme qui est vraiment une femme d'affaires dans la mesure où elle a fait des grosses études. Elle est partie à San Francisco en emmenant derrière elle son mari et ses deux enfants qui l'ont suivie parce qu'elle a été chez Google. Elle bosse, elle a une équipe, elle dirige une équipe chez Google, elle bosse chez YouTube. Et donc, c'est vraiment une femme très dynamique, très entrepreneuse. Elle fait beaucoup de mentoring justement avec les jeunes filles. Et en même temps, elle a remonté toute la paroisse de San Francisco parce qu'il n'y en avait plus. Et donc, elle est très. Elle dit qu'elle a un talent pour initier les projets et pour les suivre. Vous voyez, c'est l'initiatrice. Donc, comme elle a vu qu'il n'y avait plus de paroisse à San Francisco, elle a envoyé sur le WhatsApp du lycée français où elle avait scolarisé ses enfants, où elle venait d'arriver. En disant, bah voilà, il n'y a pas de paroisse, moi, quoi, il y a une paroisse vraiment moribonde, moi j'ai besoin de préparer ma fille à la confirmation, je vais monter donc un petit groupe de confirmants si quelqu'un veut se joindre. Et en fait, elle a eu plein de gens qui se sont dit, bah oui, moi nous on serait intéressés. Et donc après, elle a monté le baptême, le mariage, son mari a monté l'hospitalité pour le dimanche où tous les Français se retrouvent dans cette paroisse qui est devenue The Place to Be pour les Français de San Francisco. Et
Voilà.
donc,
Alors,
elle
je précise pour
s'appuie.
les auditeurs de Radio Courtoisie que The Place
Ah
to
oui,
Be, ça veut
pardon.
dire
Le lieu
l'endroit
où
où
être.
il faut être.
Pardon, c'est vrai que je n'aurais jamais dû utiliser cet anglicisme, mea culpa, et vous faites bien de me le rappeler, j'aime bien que Radio Courtoisie corrige comme ça tous les anglicismes.
Enfin, c'est vrai qu'elle
Et
est aux États-Unis, hein, donc il y a une
c'est
excuse quand
ça.
même. Voilà.
Voilà, exactement. Et donc, cette Caroline de Fontenay justifie toute sa manière d'agir professionnelle et personnelle par la parabole des talents. Et donc cette parabole où Jésus donne 5 talents, 3 talents et 1 talent à ses serviteurs, qu'il y en a un qui les fait fructifier, l'autre qui l'enterre, et ben en fait elle dit que Jésus n'a pas dit je donne tel talent à une femme ou à un homme. Les talents n'étaient pas genrés, pour utiliser un mot contemporain. Et donc, elle s'appuie sur ça en disant, ben voilà, moi, le Seigneur m'a donné comme talent d'emmener des équipes avec moi et de monter des projets. Il a donné à mon mari le talent de créer du lien, de super bien s'occuper des enfants. Et ben voilà, c'est moi, j'ai choisi d'être femme d'affaires. Et je trouve ça intéressant de s'appuyer sur l'Évangile pour dire que Il y a pas de, il faut que chacun on trouve sa raison d'être, son talent, son appel intérieur, et qu'il ne faut pas qu'on se limite à des préjugés de la femme qui est toujours empathique, dans le soin et dans l'abnégation, et l'homme qui est courageux et audacieux. Quelquefois, c'est inversé.
Voilà, bah écoutez, elle un beau modèle. Elle s'occupe des talents les talents du bon Dieu. Olivia de Fournas, je propose qu'on se retrouve dans quelques minutes. Maintenant, nous allons retrouver Valérie d'Aubigny pour sa chronique de littérature jeunesse.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Bonjour Valérie.
Bonjour Sophie.
Alors, quelle pépite avez-vous dédichée aujourd'hui pour nos jeunes lecteurs?
Eh bien, cette pépite est en lien avec votre émission de manière forte, pas complète, puisqu'il va s'agir de Marie Curie au
une femme
service
inspirée.
de la science. Marie Curie, femme forte. Je reparlerai peut-être en fin de chronique de l'aspect féministe pour mettre les mots justes sur cette personnalité par rapport à ce fait dont on parle tant. Marie Curie, au service de la science, je voulais vous présenter ce livre qui vient de sortir sous la plume d'Isabelle Stock aux éditions Plein Vent dans une collection qui s'appelle « Héros et héroïnes d'aujourd'hui ». On a déjà eu Geneviève de Galard, Honoré d'Estienne d'Orves. Ils viennent de sortir hier, Marie Curie pour l'amour de la science et Guy de la Rigaudie, un scout autour du monde, dont je vous parlerai peut-être dans une autre chronique. Mais intéressons-nous à Marie Curie. Isabelle Stock a choisi de mettre l'accent sur une période de sa vie. Lorsqu'elle arrive à Paris en 1891, elle arrive à Paris hébergée par sa sœur et son beau-frère, qui l'accueillent avec beaucoup de bonté, pour faire des études. Elle veut obtenir une licence en sciences et repartir dans sa Pologne natale pour faire profiter son pays de ses connaissances et aider son pays qui, à ce moment-là, traverse une période historique très difficile. Qui est un petit peu montrée, le contexte est en toile de fond de manière, comment dire, assez fine. On se situe très bien dans ce Paris qui bouillonne 1891 et aussi dans cette Europe qui est fragilisée. Isabelle Stock le montre bien, mais surtout, elle nous fait marcher aux côtés de cette petite femme très décidée, très passionnée, très forte. Ce petit bout de bonne femme, Marie Curie, qui veut arriver et qui est très travailleuse, très volontaire, qui exclut de sa vie toute distraction, jusqu'au jour où elle va rencontrer Pierre Curie. Et là, petit à petit, tous les deux vont se rendre compte qu'en fait, c'est ensemble qu'ils vont faire avancer la science et soudés par un véritable amour. Isabelle Stock le montre bien, c'est très intéressant. Le roman, c'est une biographie romancée qui va s'achever juste avant la mort de Pierre Curie. Donc, si vous voulez, Isabelle Stock a eu cette inspiration de nous montrer la période de vie de Marie Curie où elle fait des découvertes aux côtés de Pierre, où chacun épaule l'autre, chacun est blessé lorsque l'autre n'est pas mis en valeur, soit par les médias, soit par le monde de la science. Ça, c'est très intéressant. Réciproquement, je trouve que là, on a une approche peut-être nouvelle de Marie Curie et Pierre Curie. Extrêmement intéressant. Un mot sur le féminisme. On peut se dire Marie Curie, c'est une femme qui était athée. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui était son moteur, Olivia de Fournas. Mais c'était une femme qui voulait faire avancer la science et qui pensait, parce qu'elle avait été élevée dans cette optique-là, que les garçons et les filles avaient un même droit à l'accès aux connaissances. Vous voyez? Donc oui, en ce sens-là, elle a une approche qui met la femme en avant. Mais attention de ne pas faire de contresens. Et là, moi, je suis très contente que les éditions Plein Vent nous montrent Marie Curie et donnent peut-être l'occasion à l'auteur Isabelle Stock, dans les communications qu'elle va faire, d'ajuster ce regard. Attention à nous de ne pas regarder ces grandes figures féminines du passé avec notre lecture d'aujourd'hui qui est si clivante, qui est la guerre des sexes, les femmes contre les hommes, les femmes dominantes, les femmes qui excluent le rôle de l'homme dans leur propre parcours, dans leur propre talent. Ça rejoint tout à fait ce que disait Olivia tout à l'heure sur le fait que les talents ne sont pas genrés. Mais non, vous voyez, donc attention, et ça, cette biographie de Marie Curie peut nous donner l'occasion d'ajuster le regard, et nos adolescents en ont tellement besoin. Ce livre, Marie Curie au service de la science, dans la collection Héros et héroïnes d'aujourd'hui, d'Isabelle Stock, est une bonne entrée dans une biographie, ce genre, biographie romancée, qui peut donner le goût de la lecture à des jeunes à partir de 12 ans, je pense.
Valérie,
il y a un aspect, oui.
Dans la biographie romancée, il y a biographie, mais il y a aussi romancée. Quelle liberté prend l'artiste l'auteur par rapport à la vraie vie de Marie Curie?
Alors l'auteur se documente énormément. En fait, j'ai pu suivre un peu les travaux préparatoires d'Isabelle Stock pendant toute la rédaction de ce livre, et elle s'est énormément appuyée sur le musée Curie à Paris, et notamment deux expertes qui d'ailleurs, en fin d'ouvrage, après l'épilogue qui nous montre la mort de Pierre, après les annexes qui nous donnent un très bon lexique, après d'autres annexes chronologiques, une carte de Paris en 1892, Nathalie Pijard-Micaud et Camilla Maiani, qui sont l'une docteur en histoire des sciences, l'autre docteur en physique, toutes les deux actives au musée Curie, apportent leur regard d'experte, répondent à des questions et ont relu ce livre, ont apporté le côté scientifique. Et donc, on peut être confiant dans la véracité de cette biographie romancée qui, bien sûr, fait entrer des dialogues, des sentiments avec la liberté de l'auteur. Elle ne prétend pas faire une biographie pure. Il faut bien, en effet, vous avez tout à fait raison, Sophie, de l'indiquer, ne pas oublier le côté romancé. Mais ce côté romancé, il a énormément de vertus, parce qu'il nous donne à lire un livre qui se dévore et qui est très incarné. Vous voyez, ce n'est plus une figure lointaine de marbre du Panthéon. Il s'agit là d'un homme et d'une femme avec leurs doutes, avec leurs passions, avec leur feu. Et ça, c'est extrêmement bien montré grâce au côté romancé.
Donc, une belle biographie romancée de Marie Curie. Merci.
De Marie Curie, vraiment, à retrouver et à proposer, à diffuser.
Merci beaucoup, Valérie.
Merci, Sophie.
À bientôt.
Au revoir à toutes les deux.
Au revoir. Nous retrouvons Olivia de Fournas dans Culture et Éducation sur Radio Courtoisie avec Sophie Rouberti pour son livre Inspiré, 16 portraits de femmes d'aujourd'hui portés par l'esprit. Et ces femmes dont nous parlons sont vraiment inspirées. Est-ce qu'il y en a une ou deux qu'on pourrait choisir? J'imagine que toutes, vous êtes attachées à toutes, mais peut-être y en a-t-il une ou deux dont vous auriez envie de parler aux auditeurs?
Ah oui, la question est difficile. Alors j'hésite entre Florence Delay, parce que j'ai recueilli son dernier témoignage avant qu'elle ne meure, en soins palliatifs à Jeanne Garnier en juin dernier. Et c'était une académicienne qui est née en 1941 et qui était au service de la parole, qui a été comédienne, puis elle a écrit des livres, et puis académicienne. Ou alors Ayam Suro, qui est une femme extraordinaire, égyptienne de naissance, qui a un passeport américain, qui a des enfants français, qui habite à Paris et qui a monté une école pour donner le sentiment d'appartenance, le sentiment de la France à des réfugiés triés sur le volet, à qui elle apprend la France. Qu'est-ce que vous préférez, Sophie Rouberti?
Soyons fous, prenons les deux. Je ne choisis pas. Alors, par quoi avez-vous envie de commencer? Par qui? Par laquelle? Ayam Suro?
Très bien, Ayam Suro.
Alors, Ayam Suro, qui est-elle? Parce qu'elle ne fait pas partie des femmes les plus connues, et pourtant son œuvre est importante.
Oui, c'est étonnant. Mais je pense que c'est parce que c'est elle. Elle est tellement incroyable. Tous les gens qui la connaissent ou qui la rencontrent tombent sous son charme. Mais c'est vrai qu'elle est, C'est une femme de l'ombre. Alors pour elle, j'ai choisi le terme d'ovitalité. Je pense que ça résume bien sa vie, et d'ailleurs, elle était tout à fait d'accord. Et donc, j'ai fait tout l'entretien en lui demandant, mais d'où ça vient, cette hospitalité? Parce qu'elle, en fait, son œuvre, c'est qu'elle a monté une école qui s'appelle l'école Pierre Clavert. Alors, Pierre Clavert, c'était un missionnaire en Amérique du Sud. Et elle c'est un peu terre de mission aussi, parce que en 2008, quand il y a des Afghans qui sont arrivés par milliers à Paris, elle a été très choquée, Gare du Nord, de voir toutes ces personnes qui mettaient des années à avoir... leurs papiers. Et elle s'est dit, mais en fait, ils vont détester la France si on ne fait rien. Parce que, en fait, ce que proposait l'État, c'est de donner des cours d'alphabétisation, même pas tellement poussés. Et elle, qui était égyptienne, qui avait des parents qui aimaient énormément la France, elle disait, mais c'est pas comme ça qu'on aime la France. Elle disait, c'est pas parce qu'on a une carte de sécurité sociale, c'est même pas parce qu'on parle français qu'on aime la France, mais parce qu'on a un sentiment d'appartenance. Et elle se souvient de son père qui n'a jamais eu la nationalité française, mais qui se mettait debout quand il entendait chanter la Marseillaise à la télévision, quoi, vous voyez.
Donc en fait, son objectif, c'était de donner quelque chose à aimer, et ce quelque chose, c'est la France.
Exactement. Et donc, comme elle a un gros réseau et que c'est extraordinaire ce qu'elle fait, d'ailleurs, à la fin de l'entretien, je lui ai dit, mais j'aimerais vraiment travailler pour cette école. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et elle m'a dit, bah, je vous retourne la question. Qu'est-ce que vous pouvez donner à ces personnes pour leur faire aimer la France?
Quel est votre talent? Oui.
Voilà, et j'ai beaucoup aimé. Elle est très intelligente, très fine, et donc elle s'entoure des meilleurs. Elle a des journalistes hyperstars, Étienne de Montetti ou Figaro Littéraire, qui s'occupent de décrypter l'actualité politique. Elle a des grands poètes, elle a des juristes qui apprennent la laïcité, elle a des gens qui apprennent la musique classique, quoi, en fonction de chacun de ses talents. Si les auditeurs de Radio Courtoisie se sentent un talent particulier, qu'ils peuvent enseigner, qu'ils ont le feu sacré pour enseigner ça à des gens qui doivent quand même s'investir énormément, parce qu'il faut aller dans cette école, c'est pas juste une fois de temps en temps. Elle dit qu'en plus, elle est obligée de demander une petite contribution, donc c'est souvent des gens qui, le soir, font du babysitting, ou bossent dans une pizzeria, ils sont chez eux, c'est à feu et à sang, ils étaient quelquefois dentistes, mais c'est des diplômes qui ne sont pas convertibles en France, et c'est des gens qui ont l'ambition et la volonté de s'intégrer. Et donc j'ai beaucoup aimé son projet, et elle n'est pas du tout en position haute. C'est ce que j'ai aimé beaucoup dans son témoignage. D'ailleurs, le livre s'ouvre sur son témoignage. Pour elle, l'hospitalité, elle dit que ça lui apporte rien, ça la fait vivre. Vous voyez, pour vous dire la profondeur de son investissement. Et donc, elle a commencé avec ses parents qui ont fait le tour du monde, parce que sa mère était un grand médecin et son père était psy. Et donc, elle a habité aux quatre coins du monde. Et elle a rencontré, notamment à 11 ans, Sœur Emmanuelle. Voilà, elle était en classe au Caire. Et elle a été très marquée par cette sœur qu'elle n'a pas trouvé du tout ce qu'on peut penser comme quelqu'un de charitable, vous savez, un peu compassé, un peu... elle va s'habiller en pauvre quand elle va voir des pauvres. Non, elle a trouvé quelqu'un qui avait un gros caractère et qui disait, ben voilà, l'hospitalité, c'est vous qui offrez quelque chose à quelqu'un, mais ça pourrait être le contraire. Si Ayam Suro allait en Égypte, elle s'attendrait à être aussi accueillie comme elle accueille les gens qui viennent sur le territoire français. Et donc, cette sœur Emmanuelle, elle a été impressionnée comme ça. Et puis après, quand elle est venue en France, elle a fait des études, elle était à Henri IV, elle a fait des études de philo sur Martin Buber, justement sur la rencontre. Et après, elle a monté cette école parce que, à la suite d'une colère, parce que justement, elle a été révoltée par tous ces gens qui étaient dans la rue. Et aussi avant, elle a fait donner des cours d'alphabétisation avec une sœur qui s'appelle sœur Marguerite Thiberguin. Il s'est fait complètement arnaquer par l'association dans laquelle elle était. Et donc Ayam Suro était verte, hein, elle était en colère, et la sœur lui a dit, et d'ailleurs je trouve que les femmes inspirées, c'est souvent une parole comme ça qui les motive, la sœur lui a dit « faites quelque chose de cette colère ». Et c'est comme ça qu'elle a monté l'association Pierre Clavert. Et j'aime bien, et oui, souvent c'est, quand c'est pas un déclic, mais vous voyez, c'est quand même cette phrase-là qui l'a mis sur le...
Voilà. Et ce talent qu'elle a mis au service des plus pauvres, en fait, ça ne fait pas de bruit, mais ça fait beaucoup de bien.
Exactement, exactement.
Puisque je vous l'ai proposé, on a encore le temps de parler un petit peu de Florence Lelay. Alors Florence Lelay, cette femme académicienne portant le verbe à l'excellence française, en fait.
Exactement. Et alors Florence Lelay, elle a été, donc c'est la fille d'un grand médecin, elle voulait, donc c'est une génération, voilà, elle est née en 41, et donc elle voulait être comédienne. Et elle a été la comédienne de Jeanne d'Arc, du film de Bresson, à 18 ans. C'est elle qui a joué Jeanne d'Arc. Et elle a été très impressionnée par ces mots de Jeanne d'Arc, du reniement à son procès, voilà. Ça, c'est quelque chose qui l'a un peu habité quand elle avait 18 ans. Elle n'était pas tellement dans un milieu croyant. Il y a sa grand-mère qui était croyante, mais ce n'était pas infusé en ligne directe. Et après, donc elle a commencé à travailler avec Jean Villard, elle a travaillé avec les grands, c'était le début du Festival d'Avignon. Et son père, à un moment, lui a été affolé. Il la voyait revenir à 2h du matin. Il lui a dit, c'est pas possible, je te coupe les vivres. Si tu continues à être comédienne, il faut que tu fasses des études, que tu aies un métier. Et donc, elle a été la mort dans l'âme. Elle a dû renoncer à son métier de comédienne et elle s'est engagée pour des études d'espagnol. Et d'ailleurs, bien lui en a pris parce qu'elle remercie son père aujourd'hui, enfin, son père qui n'est plus de ce monde, bien sûr, mais parce que grâce à ça, elle a été traductrice de grands auteurs espagnols, notamment Bergamine. Et elle a pu écrire des livres. Elle était toujours au service des mots, mais d'une manière un peu différente. Comme vous, qui écrivez des livres et qui êtes à la radio, voilà, elle aussi, elle s'est dit, ben voilà, elle était comédienne et maintenant, après, elle a écrit. Finalement, c'est les vases communicants communiquent pas mal.
Alors, toutes ces
et donc, oui. Ouais, ce qui m'intéressait aussi, c'est son côté, vous parliez de détermination. À un moment, donc elle était dans le milieu intellectuel parisien, elle a été au jury Fémina, et à un moment, elle entend parler d'une Bible des écrivains.
Tiens, tiens.
Voilà, qui a été montée par Bayard, et pas mal de ses amis participaient à cette Bible, qui était intéressante parce que c'était un binôme entre un théologien et un écrivain. Donc, je ne sais pas tellement si cette Bible est encore en vogue aujourd'hui, mais elle n'était pas sélectionnée. Et donc, alors que ses amis qui étaient sélectionnés n'étaient pas croyants, donc elle est allée, elle s'est déplacée pour aller voir le responsable de cette Bible et elle a dit, bah voilà, moi je veux en faire partie. Et finalement, elle a réussi à en faire partie. Donc, elle a ce côté un petit peu facile, on dit, quand on la voit, parce qu'elle est très cultivée, elle a une joie incroyable. Alors que moi, je l'ai vue en soins palliatifs, elle avait une maladie incurable des poumons et elle rayonnait quand même. Et elle a ce culot, voilà, qui lui a permis d'arriver où elle était.
Voilà, une femme inspirante, voilà, qui nous a quittés, mais en tout cas qui laisse une trace intéressante. Voilà, ces femmes, donc on a parlé d'un certain nombre, il y en a 16, on ne peut pas toutes les évoquer, j'invite donc les auditeurs à les découvrir dans votre livre. Et maintenant je vous propose qu'on passe à nos coups de cœur.
Oui.
Alors Olivia, est-ce que vous avez un coup de cœur à proposer à nos auditeurs ?
Est-ce que j'ai le droit d'en avoir deux ?
Allez, il n'y a pas le temps. Si, bah écoutez.
Je vais très vite.
Oui, voilà.
Alors je vais très vite. Il y a une exposition superbe au musée Jacquemart-André qui s'appelle « La splendeur du baroque du XVIIe ». De « Splendeur du baroque espagnol », pardon. Et donc c'est jusqu'en août, ça ouvre aujourd'hui, je crois, l'exposition. Et c'est extraordinaire, c'est une quarantaine d'œuvres qui sont issues de la Hispanic Society of America. Donc le public français ne les a jamais vues et ne les reverra probablement jamais parce que l'Hispanic Society les a prêtées au musée Jacquemart-André le temps de faire des travaux à New York. Et donc on a Le Greco, Zurbaran, Velázquez, on a des grands des grands Espagnols comme ça. Bon, alors, le musée Jacquemart-André, l'écrin est incroyable parce que c'est un hôtel particulier dans le 8e et qui est magnifique en soi. On peut juste aller au musée Jacquemart-André sans voir l'exposition temporaire.
Oui, parce que les expositions permanentes sont vraiment... Les collections permanentes sont vraiment intéressantes. Et puis, on connaît la qualité des expositions puisque vient de fermer l'exposition Georges de la Tour et qui a été un succès incroyable.
Oui, il disait 600 000 visiteurs, quelque chose comme ça. C'est incroyable. Donc, ils espéraient que les splendeurs du baroque réunissent autant de visiteurs, mais je ne sais pas si ce sera possible. Mais en tout cas, c'est foisonnant. Il y a des huiles sur cuivre, des tableaux en nacre, le faste des vêtements. Il y a beaucoup de tableaux religieux, bien sûr. Et on voit les différentes spiritualités du Gréco avec ses grands visages longs, Zurbaran avec Sainte-Lucie, avec des fonds noirs, Velázquez, le portrait réaliste. Bah, voilà, c'est... J'ai beaucoup aimé cette exposition, voilà, premier coup de cœur. Le deuxième, j'ai le temps, Sophie ?
Ah oui, allez, je vous l'accorde.
Allez, merci. Le deuxième, ce n'est pas une exposition, c'est une association, figurez-vous, que j'ai découverte cette semaine. Je ne sais pas si vous connaissez l'association SOS Calvaire.
Oui.
C'est une association qui remet des calvaires le long des routes de France.
Et des calvaires qui existaient, qui souvent sont détruits ou en très mauvais
état. Donc, ils les réparent, les gros calvaires en pierre. Et le samedi matin, les hommes, parce que là, pour le coup, c'est un travail qui nécessite de la force, vont redresser ces calvaires aux quatre coins de la France. Et en fait, c'est les femmes de ces hommes se sont dit le samedi matin, pourquoi nous, on ne ferait pas quelque chose aussi ? Et donc, elles ont monté une association à l'intérieur des SOS Calvaires qui s'appelle les Consolatrices. Et les consolatrices, ce sont des femmes qui réparent les petits objets de piété populaire, les crucifix cassés que les gens n'osent pas jeter, même s'ils sont athées aujourd'hui. On vit d'une maison, on n'ose pas jeter le crucifix. Donc le crucifix, les bénitiers, les statues qui sont cassées. Et donc ces jeunes femmes, de tous les âges d'ailleurs, je dis jeunes, mais il n'y a pas du tout tout jeune, se retrouvent le samedi, se forment pour réparer le plâtre, pour fixer. Et je trouve que leur mouvement est extraordinaire, les consolatrices.
Merci beaucoup Olivia de ces deux coups de cœur. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à notre réalisateur Benoît. Chers auditeurs, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission.
Vous venez d'entendre Culture Éducation dirigée par Sophie Ruberti, diffusée en direct sur Radio Courtoisie jeudi 26 mars 2026 de 10h à 11h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.